tous, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne À votre avis. Nathalie Barthe pour vous accompagner dans ce débat. Salma Al-Majidi est la première femme à entraîner un club de foot masculin au Soudan et dans le monde arabe. Lors du symposium de Marrakech sur le foot féminin, la CAF a recommandé l'augmentation du nombre de femmes entraîneurs. Pourquoi si peu de femmes entraînent les clubs de sport masculins et féminins alors que le nombre de licenciés explose dans le monde? Selon vous, les clubs masculins peuvent-ils avoir des entraîneurs féminins? Avez-vous des exemples à citer? Ce sont les questions qui vous ont été posées sur le Facebook de VO Afrique. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé d'y avoir répondu. On va tenter de développer ce sujet, d'avoir votre point de vue sur cette question. À 27 ans, Majidi, alias Sister Coach, est devenue donc la première femme entraîneur d'un club de foot masculin au Soudan. Je suis devenue coach car il n'y a toujours pas de place pour le football féminin au Soudan, a-t-elle déclaré. Elle a commencé à s'intéresser au foot à 16 ans. Elle était captivée par les instructions du coach lors de l'entraînement de l'équipe de son jeune frère. Suivre ces séances lui a permis de discuter des techniques avec l'entraîneur qui lui a alors proposé de la former. Peu après, la jeune Soudanaise s'occupait des moins de 16 ans du club Al-Hilal à Omdurman. Entraîneuse de football à plein temps rémunérée comme le serait un homme. Elle a depuis entraîné les clubs masculins de deuxième ligue, Al-Nada, Nil Alpha et Al-Mourada. D'ailleurs, Nil Alpha et Al-Nada ont terminé premier de leur championnat locaux. Elle est déterminée à percer dans le monde du foot et elle rêve d'entraîner une équipe internationale, bien sûr. Elle a dû se battre pour imposer forcément son autorité, comme on l'imagine. Elle raconte notamment l'anecdote d'un garçon qui refusait de recevoir des ordres d'une femme. Et son père se souvient d'un oncle qui avait l'habitude de la critiquer. Ce dernier, voyant les foules scander son nom durant un match, c'est parti aujourd'hui de tous ses proches, autant dire de tous ses fans, qui prient maintenant pour la soutenir. Je crois que nous avons un auditeur en ligne. Nous avons Brahima Doumbia en ligne au Mali. Bonsoir Brahima.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA. Bonsoir à tous.
Comment allez-vous?
Je vais pas très bien, je vous appelle depuis Sikasso au Mali, de la frontière ivoirienne.
Comment ça se passe là-bas? Est-ce que tout va bien?
Tout va bien. Je vous souhaite surtout mes vœux de prospérité pour cette année ou cette année qui débute.
Un grand merci. Bien le bonjour à la famille. Brahima Doumbia. Alors, quel est votre commentaire sur cette question, hein, les entraîneurs femmes? C'est vrai que dans le monde du sport, d'une manière générale, dans le monde entier, elles sont vraiment très, très, très rares. Comment vous l'expliquez et qu'est-ce que vous pensez de cela?
C'est une surprise quand même d'entendre qu'une Soudanaise se pose en quelque sorte, puisque les Soudanais ne sont pas, je ne dirais pas amateurs de football, mais quand on regarde un peu le classement FIFA ou le classement sur le plan africain, les Soudanais quand même ne sont pas trop à la hauteur, mais je dirais. Vu une femme aussi à la tête d'une équipe homme, je dirais, quand même c'est très rare, surtout en Afrique. Parce que je ne sais pas qu'il y a des barrières, il y a l'empêchement, mais je pense que les femmes ne sont pas trop à la hauteur, de mon point de vue, pour entraîner une équipe d'hommes, en quelque sorte. Je pense que le frein, ce serait psychologique, en quelque sorte, puisque si elle travaille dur, je pense qu'elle peut quand même entraîner des hommes, pourquoi pas, puisque c'est juste des idées, c'est juste un encadrement, je dirais, psychologique, moral, physique surtout, qu'il faut faire, je pense, de mon point de vue. Et c'est possible pour les femmes d'entraîner des hommes.
Brahima, est-ce qu'au Mali, vous connaissez notamment des femmes entraîneurs dans divers sports, hein? Ça peut être toutes sortes de clubs. Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas du tout?
Bon, c'est juste En France, que j'ai une fois entendu une dame qui a eu entraîné un club, qui entraînait un club, mais le cas spécifique du Mali, je n'ai jamais entendu et je n'ai jamais vu de femme entraîner en quelque sorte. De mon point de vue, je pense que si les femmes entraînent des clubs masculins, elles auront le même salaire, elles auront les mêmes avantages, mais comme je le dis, peut-être c'est psychologique, et ça peut être aussi dû, si elles sont mariées, peut-être aux contraintes familiales aussi, de mon point de vue, vu la pression ici en Afrique, vu des idées qui vont diverger et parfois qui ne vont pas aller dans le sens de l'encouragement de cette dernière, de mon point de vue.
Est-ce que vous pouvez imaginer, Brahima, une femme à la tête d'une équipe de football, de l'équipe nationale de football au Mali, par exemple, qui serait entraîneuse de l'équipe nationale de football au Mali? Est-ce que vous pouvez imaginer cela aujourd'hui? Par rapport à tout ce que vous avez dit, finalement.
Mais l'équipe de football au Mali aujourd'hui, je ne pense pas, je ne vois pas une dame dans les 2-3 prochaines années à la tête du football malien. Vu un peu le contexte, parce que les femmes qui jouent au foot ou les demoiselles qui jouent au football ne peuvent pas, en quelque sorte, entraîner nos joueurs, puisque ce sont des joueurs expérimentés, ce sont des joueurs qui jouent dans des clubs européens ou russes ou américains, de mon point de vue, alors que nos joueuses là sont aujourd'hui
dans les clubs maliens. Ça pourrait être éventuellement une footballeuse d'un autre pays, par exemple, hein, comme c'est le cas très souvent pour les coachs, hein, c'est des coachs internationaux. Merci beaucoup, Brahima. Justement, je vais parler de la coach de foot portugaise, Helena Costa, qui a entraîné plusieurs équipes masculines, juniors et féminines, notamment en Espagne. Et au niveau international, elle a dirigé les femmes du Qatar à leur première victoire, hein, 4-1 contre les Maldives en 2012. Et elle a également entraîné les Iraniennes. Alors c'est ce qui est intéressant finalement. On cite ici deux cas de pays très musulmans, on va dire très conservateurs, hein, le Qatar et l'Iran, et qui finalement préfèrent faire appel à des femmes, à des professionnelles femmes, donc des footballeuses, pour effectivement entraîner leurs équipes de femmes, parce que, comme on le sait, surtout en Iran, on imagine que le gouvernement n'accepterait pas qu'une équipe de footballeuses iraniennes soit encadrée par un homme, éventuellement, à moins que ça change un petit peu. Et donc en France, elle devait entraîner notamment Clermont Foot en Ligue 2, en 2013, et elle était devenue la première entraîneur d'un club professionnel dans le pays et la première dans les deux premiers rangs d'une grande ligue européenne. Mais en 2014, elle a démissionné, citant un amateurisme total et, écoutez bien, un manque de respect de la part du club, avec le directeur sportif ayant fait signer des joueurs sans son consentement et qui ne répondait pas à ses tentatives de le contacter. Elle a été remplacée par Corinne Diacre, la fameuse Corinne Diacre, dont nous pourrons parler tout à l'heure après notre auditeur Thierno Oumar Diallo, qui est en Guinée. Bonsoir Thierno.
Oui, bonsoir. Bonsoir à l'ensemble des auditeurs de tout ce que vous avez fait.
Bonsoir Thierno, un grand merci pour eux. Comment ça se passe à Conakry?
Oui, ça va, très chaud.
Très chaud, il fait très chaud, n'est-ce pas? On se met à l'ombre, à l'abri, sous les arbres.
C'est chaud dans tous les domaines, que ce soit le domaine sociopolitique et aussi le climat.
Ah, voilà. Alors Thierno, on vous écoute sur la question du football. Les entraîneurs femmes dans le monde du sport, d'une manière générale, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il devrait y en avoir plus? Et est-ce que vous êtes pour déjà que, par exemple, elles entraînent des clubs masculins?
Oui, tout à fait. Je suis vraiment, satisfait de voir des femmes très engagées, parce que, comme on dit souvent, dans le sport, c'est le travail qui paye. Elle a beaucoup souffert, elle a vraiment fait un parcours extraordinaire pour arriver là où elle est aujourd'hui. Et elle n'a pas été parachutée. Vous savez, dans le domaine sportif, on ne dit pas que niveau
vous parlez de qui là? Vous parlez. Thierno, vous parlez de la secrétaire générale de la FIFA, c'est ça? Non?
Oh, oui, oui, je parle de Mme Sarah et d'accord. aussi la femme qui vient d'être...
Ah, vous parlez de la soudanaise, l'entraîneur soudanaise, d'accord.
Oui, alors, je parle des deux parce que tout récemment, les femmes, on les voit partout, elles ont vraiment maintenant déterminé sur le terrain pour s'engager de plus parce que par avant, elles sont moins engagées, il faut dire la vérité, elles n'étaient pas vraiment à jour dans les domaines sportifs parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le sportisme n'existe presque pas. Il faut être sur le terrain, il faut pratiquer, il faut s'engager pour être dans les grandes postes. L'exemple de Mme Samora, l'arrivée de Samora à la tête, comment dirais-je, secrétaire général, je pense, à la FIFA, ça a beaucoup aussi inspiré les femmes. Mais maintenant, oui.
Et vous pensez vraiment est-ce que vous pensez justement que le fait que le secrétaire général de la FIFA soit maintenant une femme va permettre qu'il y ait plus de femmes entraîneurs dans le football, parce que bon, on voit pas trop ça à l'horizon jusqu'ici, non?
Oui, tout à fait. L'arrivée de Samora va forcément favoriser les femmes. Elles vont se déterminer de plus, s'engager, aller sur le terrain, faire vraiment apprendre partout. Elles sont aussi les représentantes, comme ça, à la tête de l'institution qui est chargée de ce rôle. Elles ont maintenant l'accès direct au bureau exécutif de la FIFA, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Maintenant, elles ont eu le courage de le faire. Vous allez voir, dans les années à venir, elles vont s'engager partout et elles vont apporter le prêt que nous pourrons faire pour le développement du football mondial. Il y a quelques années aussi, j'ai vu une arbitre dans le championnat italien. J'étais vraiment surpris ce jour-là parce que je n'avais jamais vu cela. Elle était l'arbitre de tous, je ne sais pas si c'est sympa ou tous. Mais elle était vraiment engagée. Vous savez, surtout les Africains, c'est rare de voir leurs engagements parce que c'est quelque chose qu'on prend un peu de temps. Surtout, même dans notre quartier, au village, quand une fille porte culotte, c'est quelque chose de tabou parce qu'on va directement la taxer d'être un peu masculin. Et puis, au fur et à mesure, elles sont vraiment minoritaires dans le secteur sportif. C'est ce qui les empêche d'évoluer, manque d'engagement des gens et des autres. C'est rare de voir. Mais maintenant, comme utilisé par l'exemple en Guinée, nous avons une dame qui est très engagée. Elle est membre même de la Fédération guinéenne de football, mais aussi de la CAF. Elle est vraiment dans tous les domaines. Elle travaille beaucoup pour que le football féminin s'impose. Parce qu'en vrai dit, nous avons une équipe nationale féminine chez nous, mais vraiment, elles sont vraiment incapables de participer aux différentes compétitions internationales. Tout récemment, nous avons perdu face au Mali, je ne sais pas si c'est à 8-9-0, c'est quelque chose d'inimaginable. L'État et la Fédération guinéenne de football n'arrivent pas à mettre les moyens en place pour manager les équipes féminines. Ça aussi, c'est une erreur de leur part, comme je suis en train de faire pour l'équipe masculine, sa rentabilité. Si on pouvait moins engager 40% qu'on donne aux hommes et aux femmes, je crois bien dans les années à venir, nos équipes féminines vont s'imposer sur le continent. Et pourquoi pas dans les compétitions mondiales, comme ça fait les Américains, les États-Unis. Parce qu'actuellement, les États-Unis comptent l'un des meilleurs footballeurs du monde, mais aussi l'équipe française dans le championnat France où récemment j'ai regardé la Ligue des champions féminine. C'est quelque chose vraiment qui est attire, quelque chose vraiment qui exclut beaucoup de la nouvelle génération que nous sommes aujourd'hui, parce qu'il faut que tous les arts s'engagent pour lutter ensemble que ce soit dans le football, basketball, etc. Ça suffit de s'engager. Une fois que tu t'engages, tu es déterminé, tu pourras vaincre. Ça aussi.
Merci beaucoup, Thierno. Un grand merci, Thierno, hein, pour toutes ces explications justement sur la situation de l'équipe de football féminine en Guinée. Avant de prendre Steve Boko en ligne, j'ai dit tout à l'heure que j'allais parler un petit peu de Corinne Diacre, hein, qui est footballeuse internationale française devenue entraîneur. Elle est la première femme à entraîner sur le long terme une équipe professionnelle masculine. En 2017, elle a été nommée sélectionneur de l'équipe de France féminine de football. En 2014, elle est devenue la première femme à obtenir le brevet d'entraîneur de football professionnel permettant d'entraîner des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et en 2015, elle a été notamment élue meilleure entraîneur de Ligue 2 par France Football. Bon, voilà, c'est un exemple parmi peu d'autres. On n'en a pas tant que ça. Donc, on a Steve Boko en ligne. Steve, bonsoir.
Oui, bonsoir, madame la journaliste.
Bonsoir, monsieur Steve. Vous êtes donc en Côte d'Ivoire et on vous écoute.
Ah, ok, bon, pour ma part, je vois que, j'avais même pas dit pour ma part, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, j'ai pas encore vu une femme entraîneuse pour le moment. Ouais. Donc, vous savez, et tout métier est un sacerdoce, c'est une vocation. Si vous n'avez pas cette vocation, je ne pense que cela peut être effectif. Nous voyons toujours les anciens joueurs qui deviennent, qui deviennent plutôt entraîneurs comme les Zidane, les Eto, bref, plein d'autres enfers, comme Troupidé, Troupa, même en enfer, même en Côte d'Ivoire ici. Mais je n'ai pas encore vu une femme entraîneuse. Si elles peuvent nous montrer l'exemple, cela nous racaillardirait beaucoup. Sinon, si la femme prend chose, si la femme décide de faire quelque chose, elle le fait de façon incointo. Donc, qu'elle nous montre ce qu'elle vaut sur le terrain, surtout sur le terrain ivoirien, en vue de pouvoir glorifier un peu leur nom. Sinon, cela avilit un peu leur nom. Si c'est pas Myriam Aoré qui se bat un peu pour le sport féminin, je ne pense que avec quelques-unes, certaines doivent aussi emboîter cette pas en vue de pouvoir glorifier ou bien valoriser un peu le nom de notre pays, la Côte d'Ivoire.
Un grand merci, Steve, pour votre commentaire. Avant de prendre Osana, on peut rappeler un petit peu les Jeux Olympiques de Rio, notamment, sachant que sur les 56 équipes de sport collectif présentes en demi-finale, donc à Rio, seulement 4 avaient une femme pour entraîneur. Et sur les 4, aucune équipe masculine, hein, très souvent. C'est évidemment, elles entraînent des équipes féminines. Alors, elles ne sont présentes que dans deux sports, le basket et le football. Et le cas des Jeux Olympiques est assez représentatif de la situation, d'ailleurs, que connaît le sport en général dans le monde. Il y avait notamment la Française Valérie Garnier, qui entraînait l'équipe de France de basket, qui entraîne l'équipe de France de basket depuis 2013. L'équipe féminine serbe de basket était également entraînée par une femme, Marina Maljkovic, et en football féminin, l'Allemagne et la Suède s'étaient rencontrées en finale, deux équipes entraînées par des femmes, donc Sylvia Neid, qui a mené les Allemandes au titre olympique, et la Suédoise Pia Marianne Sundage. On a en ligne Osana.
Bonsoir madame et bonsoir à tous vos fidèles auditeurs de la VOA Afrique.
Bonsoir Osana. Osana, à partir du Tchad, on vous écoute.
Moi, je donne tort aux femmes qui ont une complexe d'infériorité, qui pensent que faire ce travail est un tabou. Donc, cela fait qu'on ne voit pas des femmes qui dirigent des profs, des femmes qui se donnent à ces boulots. Pourtant, moi, je pense qu'elles sont aussi capables, hein, de faire ce métier. Donc, il suffit juste une volonté. Il suffit juste qu'elles changent leur mentalité et puis elles peuvent bien et bien exercer ce métier. Parce que beaucoup, plus souvent, ces femmes pensent que c'est un tabou, quoi. Donc, je pense qu'elles ont aussi une capacité intellectuelle, une capacité technique, pour pouvoir diriger même des grands clubs ou des grandes équipes. Donc, je ne vois pas ce qui va les empêcher à faire, à exercer ce métier. Donc, il suffit juste que ces femmes se donnent, ces femmes pensent qu'elles peuvent aussi faire. Et c'est tout, ça peut aller. Mais du moment où même jouer au football, on a, par exemple, on a des grands joueurs mondiaux, mais au niveau des femmes, on n'a pas des filles, à part le basket ou le handball, on ne voit pas des femmes qui jouent comme telles que le Messi, Cristiano Ronaldo. On n'a pas de nom comme ça du côté des femmes. Donc, moi, je pense que les parents aussi doivent encourager beaucoup leurs filles. Ah donc, ça nécessite un travail de base aussi. Dans chaque famille, il faut qu'on encourage nos filles à aimer ce métier, à aimer le football, à aimer l'espoir. Et je pense que tout ira mieux. Quoi. Sinon, à part ça, y a un travail, un grand travail à faire à ce niveau.
Un grand merci, Ozana, pour toutes ces motivations, ces appels aux motivations, effectivement. Et comme vous le rappelez bien, il est vrai que si cette dame, cette jeune femme soudanaise a pu arriver là où elle est, comme on le sait au Soudan, le Soudan n'est pas du tout ouvert au football féminin. Je ne suis même pas certaine qu'il y ait une équipe nationale féminine. Et d'ailleurs, cette entraîneuse avait déclaré que justement, elle s'était dirigée un petit peu dans le métier d'entraînement, justement, par rapport au fait qu'il n'y avait quasiment, le football féminin était quasiment inexistant donc au Soudan. Avant de prendre Diarra Kanyoumé, on peut rappeler que pourquoi il y a peu de femmes entraîneurs en fait, notamment selon Gilles Veille-Marchizet, qui est directeur du laboratoire Sport et Sciences Sociales. Il est cité par le JDD, donc il est à l'université de Strasbourg. Alors il dit qu'il y a un facteur culturel, bien sûr, comme on peut l'imaginer. Historiquement, le sport reste très masculin, autant par les pratiques que dans l'encadrement, dit-il. Il a été prôné au niveau de l'olympisme par Pierre de Coubertin, un aristocrate très avancé sur les questions pédagogiques, mais très rétrograde en matière d'égalité homme-femme. Le sport a été construit autour d'une forme de sexisme, dit-il, et le sociologue rappelle que tout ce qui relève du technique et du politique dans l'encadrement du sport est généralement l'apanage des hommes, tandis que le côté administratif est plus ouvert aux femmes. C'est vrai, on peut très bien, on a eu l'exemple tout à l'heure de Madame Samoura, donc de la FIFA, et donc selon lui, plus il y a des enjeux sportifs et financiers, moins il y a des femmes. On peut penser qu'il a raison, ce monsieur. Nous avons Diarra Kanyoumé en ligne.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir tous les plateaux de VOA Afrique. Je vous appelle toujours dans mon village natal à Soumikini.
Bonsoir Diarra, on vous écoute.
Ok, merci de me donner la parole. Nathalie, à mon avis, je pense que vraiment si tu as vu que non, les femmes n'est pas beaucoup par rapport à côté en tournoi, il faut imaginer que non. Par exemple, les parents, le moment qu'ils font leur étude par rapport à l'école, je pense que vraiment... Souvent, dans l'éducation physique, on fait beaucoup de sport. Même les femmes elles jouent au football. Donc, je pense que vraiment, côté sportif, il y a beaucoup de femmes qui ne s'occupent pas de ça par rapport à leur étude. Donc, d'autres aussi, ils prennent côté administratif par rapport au travail de développement, par rapport au travail du gouvernement. Donc, je pense que vraiment, les femmes, elles ont abandonné le côté sportif. Sinon, à mon avis, je pense que vraiment... Si les femmes, elles ont considéré le football, je pense qu'elles vont trouver place comme les...
Merci beaucoup, Diarra. Avant de prendre un autre auditeur, je vais lire quelques commentaires, notamment celui de Sidi Kabakar. Il dit « Cette dame soudanaise a donné un bon exemple aux femmes africaines. Les femmes d'Afrique peuvent aussi être de grandes footballeuses et coachs. Nos sœurs africaines doivent enlever de leur tête que le football, c'est l'affaire des hommes. Tidiane Botegueban, lui, a écrit « La responsabilité revient aux femmes car elles ne se lancent pas assez. » Tidiane, donc, il pense de cette manière-là. Nous avons donc en ligne... Et qui avons-nous en ligne? Et pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? C'est Yao Marcelin, en Côte d'Ivoire. C'est ça, on vous écoute rapidement. Vous avez le dernier
bonsoir,
mot.
Nathalie. Bonsoir à tous les Afrique.
Bonsoir, on vous écoute.
Mais je pense que elle a encouragé, ce genre d'initiative a encouragé, parce que sur le continent, il y a très peu de femmes qui s'exercent à ce métier-là. jusque-là réservé aux hommes. On a vu que les hommes entraînaient les hommes. C'est vraiment rare de voir les femmes entraîner les hommes.
Un grand merci, Yaouma Flin. À très bientôt. Un grand merci à tous nos auditeurs. Au revoir.